Entre humus et soufre, entre sacralisation de la nature et sa gestion avide, y a-t-il une troisième voie? Le pasteur Didier Fievé nous invite à la réflexion.
Salut! Salut à toutes et à tous. C'est un joli mot, vous ne trouvez pas, salut? C'est l'évocation d'un geste gracieux du poignet ou de la main pour ouvrir l'espace d'une conversation? Ou bien c'est un geste pour dire au revoir, pour dire que l'instant qu'on a passé ensemble a compté, et qu'on en aura d'autres. Et puis c'est aussi une promesse, quelque chose pour dire « Nous sommes sauvés, nous les humains. » Salut. Bon, n'allez quand même pas vous imaginer que je vais vous servir aujourd'hui un conte de Noël. C'est une émission pas drôle, puisqu'elle est protestante. Et c'est une émission pessimiste, puisqu'elle est écolo. Et pourtant, si c'était vrai que le monde avait été sauvé de ses propres démons, eh bien, c'est notre rendez-vous mensuel entre souffle et humus. Si j'en crois le récit biblique, l'humanité, depuis toujours, porte en son flanc la cicatrice d'une catastrophe écologique. Une submersion de toute la terre habitée, le déluge. Cela occupe 4 chapitres du livre de la Genèse, tout un cycle, le cycle de Noé. En fait, c'est la reprise d'un autre récit, antérieur ou concomitant, je laisse le soin aux historiens d'en débattre, un autre récit que l'on lit dans l'épopée de Gilgamesh, un texte de la haute antiquité mésopotamienne, qui elle aussi fait état d'un déluge. Le matériau biblique n'est donc pas original. Il tisse des thèmes qui déjà existent, mais avec des nouveaux motifs. Par exemple, les divinités mésopotamiennes sont lasses des récriminations humaines, des révoltes contre les dieux du ciel. Elles décident de punir les humains et de détruire la terre. Eh bien, la tradition biblique va reprendre le même matériau et il va remplacer le Panthéon par les dieux d'Israël. Le dieu d'Israël. Elle inclut aussi, cette tradition biblique, d'autres variantes, plus ou moins importantes, mais c'est pas mon propos. On n'est pas là pour faire de la littérature comparée. Ce qu'il convient de repérer, c'est que le retour au chaos constitue une crainte partagée depuis au moins 4000 ans. La possible fin de notre monde, aujourd'hui redoutée et quasi programmée par pas mal d'entre nous, fait partie de nos peurs archaïques. Un retour au néant, un retour au non-su, au non-dit, plus exactement au non-dissible. Le texte biblique, dans sa simplicité quasi virginale, semble imputer cette menace, puis cette catastrophe, à une punition divine. L'être humain y est décrit comme perverti au plus profond de lui, violence et méchanceté règnent en maîtresse du monde, folie des grandeurs, on a même, mais oui, imaginez l'union entre des femmes et de mystérieux êtres divins, ou du moins célestes, pour engendrer des super-héros. Déjà, transhumanisme avant l'heure. Et alors, Dieu se repent. Il regrette d'avoir mis au monde une telle engeance, ne formant que des desseins arrogants et agressifs. C'en est fini, je les raye de la carte. Mais on peut aussi comprendre les choses autrement, les lire autrement. Est-ce que ça ne serait pas plutôt l'être humain qui s'accuserait lui-même, qui, face à la catastrophe naturelle, s'imputerait la culpabilité? L'être humain qui se sent coupable de la fin des choses, de la fin du monde, de sa propre fin. Coupable de sa propre mort. Et vous savez que le motif a même des relents néo-testamentaires, du moins quand ils sont mal compris, par exemple quand Paul dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Coupable de sa propre mort. Alors, on va amplifier la catastrophe naturelle à la hauteur de notre peur, laquelle est accordée à la hauteur de notre culpabilité inconsciente de n'être que ce que nous sommes, c'est-à-dire mortel. La blessure de n'être pas parvenu à être comme des dieux, vous vous souvenez de la promesse du serpent, la blessure de n'être pas parvenu à être comme des dieux transforme notre condition mortelle en une culpabilité, et du coup la culpabilité en une punition. Les vannes des cieux s'ouvrent, mais je peux lire aussi « l'œil du ciel nous poursuit ». Car en hébreu, c'est le même mot « aïn » qui désigne à la fois et le robinet et l'œil. J'entends donc « l'œil de Dieu était dans la vague du tsunami, et pas seulement dans la tombe ». Malheur à cet humain prisonnier. Prisonnier à l'aller de sa volonté de toute puissance et au retour de sa culpabilité d'avoir échoué à y parvenir. Il est pris dans un étau qui l'écrase et qui gauchit son rapport à la nature. La mort, qui est une caractéristique de la nature. La mort est conçue non plus comme constitutive naturellement de l'humain, elle est considérée comme une punition, stigmate d'une culpabilité intérieure, inconsciente, sourde et muette. Je crois pour ma part que l'être humain est par nature doué d'une capacité à interpréter la nature et donc à interpréter sa propre nature, à lui chercher un sens, à lui attribuer un sens. C'est comme ça. Nous sommes ainsi. Ce qui veut dire que, pour nous les humains, le mourir humain ne se réduit jamais à un périr animal. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si le périr animal n'est pas lui-même sujet à interprétation dans le monde animal. Qu'en saurais-je ? Jamais rien, bien sûr. Ce serait de l'anthropomorphisme et rien de respectueux vis-à-vis du genre animal. Non, ce n'est pas là ma pointe. Ce que je veux simplement dire, c'est que le mourir humain ne saura jamais être réduit à un seul constat biologique, objectif, naturel. Mais du coup se pose la question de cette interprétation de la mort, de l'interprétation en particulier du cataclysme naturel, de la catastrophe naturelle, qui apporte la mort, par milliers, par millions, par milliards peut-être. Un jour tant redouté, et pourtant qui fascine tout le monde, le jour de la fin du monde. L'humanité n'en finit pas de flirter, de jouer à cache-cache avec la mort, tantôt en la tentant, tantôt en la redoutant. Très souvent en la niant, notamment avec cette invention grecque de la vie sans fin, de l'âme, souvent reprise à tort par le concept de vie éternelle dans le christianisme. Le texte du récit du déluge est pourtant assez clair. On se souvient que dans le second récit de création, Dieu façonne l'être humain à partir de l'humus et en lui insufflant une haleine, un souffle de vie. C'est du côté du verset 7 du chapitre 2 de la Genèse que vous trouverez ça. D'ailleurs, c'est de là le titre de notre émission, Entre souffle et humus, l'être humain vivant. L'hébreu dit « et l'humain devint nefesh », c'est-à-dire être vivant, que certains, à la lumière des concepts grecs, ont malencontreusement traduit par âme. Pour en revenir au récit du déluge, Dieu dit justement « mon souffle ne restera pas toujours dans l'humain, car il n'est que chair. » C'est la trace, s'il en était besoin, de notre volonté d'immortalité, mais qui est en fait une dénégation de notre nature. C'est la trace de cette mortelle tentation de vouloir nier l'évidence tragique de la mort.
J'ai peur, j'ai la trouille, j'ai les foies, j'ai les boules, la pétoche.
La pétoche.
La La liste est trop longue, on nous bousille le monde. Tout qui cloche,
tout qui cloche.
Pourri l'atmosphère, plus d'été, plus d'hiver. Marée noire, barbu enragé, prince avide de paix. Trop dollars, mais où est donc le capitaine du navire? Les moussaillons boivent le bouillon, ça tourne, ça vire. Personne ne sait plus naviguer, tous nos filets sont emmêlés. Les petits poissons font la gueule. Les voiles prêts à s'accrocher à l'œil de verre et au délire du premier capitaine Crochet qui pue la haine et la friture. Y'a quoi à dire? Les temps sont durs.
Ah, les temps sont durs. Ah, les temps sont durs, durs.
Quand ça pisse le sang, j'essuie mon petit écran plein de barbac.
Plein de barbac.
Quand ça crève de faim, je flippe et j'y peux rien. Faut que je zappe.
Faut que je zappe.
Les filles à fond de cale, il paraît que c'est un mal. Planétaire. Dans tous les bateaux, tout le monde fait pas dodo. En première, mais où est donc le capitaine du navire? Les moussaillons boivent le bouillon, ça tourne, ça vire. Personne ne sait plus naviguer, tous nos filets sont emmêlés. Les petits poissons font la gueule. Les voiles prêts à s'accrocher à l'œil de verre et au délire du premier capitaine Crochet qui pue la haine et la friture. Que pourra dire? Les temps sont durs.
Ah, les temps sont durs. Ah, les temps sont durs, durs.
Moi je fais le gros dos, perdu dans ce chaos, je me rassure.
Je me rassure.
Je mords avec rage dans mon petit bout de fromage, tant qu'il dure.
Tant qu'il dure.
Il y a plein d'étrangers qui piqueraient bien les clés de ma maison. Chez moi comme chez eux, il y a plus d'amour heureux, plus saison. Mais où est donc le capitaine du navire? Les moussaillons boivent le bouillon, ça tourne, ça vire. Personne ne sait plus naviguer, tous nos filets sont emmêlés. Et les petits poissons font la gueule. Les voiles prêts à s'accrocher à l'œil de verre et au délire du premier capitaine Crochet qui pue la haine et la friture. Y'a pas à dire, les temps sont durs. À l'œil de verre et au délire du premier capitaine Crochet qui pue la haine et la friture. Y'a pas à dire, les temps sont durs. Y'a pas à dire, les temps sont durs.
Tout ça pourquoi? Pourquoi ce détour par le déluge pour parler d'écologie? Eh bien, d'une part, pour dire que la nature en soi n'est peut-être pas aussi bonne que cela. La nature est violente. La nature élimine. La mort, du point de vue de la nature, c'est juste l'ordre des choses. La mort fait partie du cycle de la vie. Du point de vue de la nature, la mort n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste nécessaire à l'équilibre écologique d'un milieu. Très souvent, quand je dis ça, on m'objecte les exemples de coopération, de collaboration, de synergie naturelle. Bien sûr que je ne le nie pas. C'est la base même des équilibres écologiques. C'est la base même de l'équilibre d'un biotope. Bien sûr. Mais c'est toujours dans le cadre d'une stratégie, d'une lutte pour plus ou moins de lumière, pour plus ou moins de nutriments, pour plus ou moins d'humidité, pour plus ou moins de parasites. La vie biologique en elle-même est violente. D'ailleurs, biologie et violence ont la même racine. Bios. Et puis deuxièmement, pourquoi ce détour par le déluge? Eh bien parce que ça nous permet de voir que trop souvent, la clairvoyance écologiste, et je dis bien écologiste, confine à l'accusation écologiste. De même que le texte biblique comprend la catastrophe comme une punition divine, de même il y a une tentation écologiste à comprendre la catastrophe qui se prépare comme une juste punition envers une humanité arrogante. Et certaines voix s'en réjouissent même, entrevoyant l'opportunité, peut-être, d'être promues au rang des justiciers. Et pourtant, oui, il y a bel et bien une crise écologique, et qui va largement au-delà d'un dérèglement climatique. Une crise écologique qui revêt des aspects biologiques, bien sûr, la fonte effroyable de la biodiversité, et donc la perte incalculable de ressources, mais aussi les pollutions en tout genre, qui compromettent la santé et la fécondité des humains. Mais la crise écologique a aussi des implications civilisationnelles, et pas des moindres. Par exemple, la perte d'un rapport harmonieux et apaisant avec les paysages. La perte aussi de toute notion d'humilité. Humilité, du latin humus, dont nous sommes formés. Et puis aussi la déconnexion totale d'avec la notion de limite. Et cette déconnexion nous livre pieds et poings liés à la toute-puissance technique. La sobriété n'a plus aucune légitimité si nous sommes coupés de la nature. Si elle n'est plus qu'un cadre virtuel, un fond d'écran pour le plus grand nombre, ou une osaïs fermée, réservée à quelques privilégiés pour les autres. Oui, il y a bien une crise écologique et civilisationnelle qui nous coupe de notre support et de nos limites naturelles. Mais cette crise, à qui l'imputer? Il est bien facile, derrière un écran, dans le confort d'un monde électronique, il est bien facile de fustiger l'être humain, les générations qui nous précèdent pour les jeunes et les jeunes pour les plus anciens. Il est bien facile de dénoncer le progrès quand on en jouit sans même s'en apercevoir. Il est facile de dénoncer les pratiques agricoles tant qu'on n'a pas le crédit agricole pour créancier et qu'on ne risque pas de voir sa terre se venir gonfler le patrimoine de plus gros que soi. Il est facile de prendre des bonnes résolutions quand on a les moyens d'aller acheter bio au marché des arceaux le samedi matin. Il est toujours facile de trouver des coupables si c'est pour essayer de ne pas faire partie du lot. Il est facile de s'imaginer victime quand on est tous impliqués. Et on est tous impliqués, malgré nous. Pris dans le tambour d'une machine à laver folle, pris dans l'engrenage d'un monde qui ressemble à s'y méprendre, à celui de Gilgamesh ou de Noé. Le monde est submergé de ses propres folies, de ses propres abus. La tentation est grande, pour beaucoup, ou au moins pour certains, de souhaiter ce déluge comme une remise à zéro. La grande lessive, quoi. La question qui se pose alors, c'est qu'est-ce qu'on va faire des bulles? Où est-ce qu'on va déverser le liquide de rinçage? En d'autres termes, un peu plus cru, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces cadavres? À quel prix les recycler?
How many times have I had this dream that wakes me from my slumber? How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? When will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. Is this the sound of rushing water flooding through my brain? Is this the sound of God's own daughter calling out your name? This is the sound of atmospheres, three metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? Is this the sound of rushing water running through my brain? Is this the sound of God's own God? I shrank down an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, what we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water.
Bon, je sais bien que mes dernières phrases ont pu paraître cyniques et en choquer certains, ou certaines. Pardon. Pardon, mais l'heure est grave, et peut-être plus qu'il n'y paraît. C'est de millions de vies dont on parle, et je voudrais qu'on n'en parle pas comme d'une variable d'ajustement, comme d'un nécessaire sacrifice offert à on ne sait quel dieu obscur. Dieu de l'économie sans entrave, par exemple, dieu de la prospérité sans limite, les Baals de l'Ancien Testament, mais aussi à l'opposé, dieu de la pure nature. Tous ces cultes se rejoignent sur l'amoncellement des morts. Il y a sans doute eu, en d'autres époques, des moments où l'humanité a été confrontée à des choix pas moins tragiques, où elle a failli à son humanité et à l'échelle planétaire. Bien sûr, je pense à la Shoah, dont on ne s'est toujours pas remis. Il se pourrait que se dessinent aujourd'hui les prémices d'un drame peut-être de la même ampleur, ce que j'appellerais un génocide des sacrifiés. Dans le temps, les sacrifiés du capital lui étaient, pour un temps au moins, nécessaires. Il ne fallait pas les mettre à mort ou juste de mort lente. Le capital avait besoin de son prolétariat. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des robots et les autres intelligences artificielles, les puissants n'ont plus besoin que d'une petite poignée d'esclaves. Alors si un grand nombre venait à être emporté par une crise écologique, eh bien, ils n'en supporteraient que mieux, les quelques privilégiés. Ils jouiraient même de ce spectacle horrible, mais réjouissant pour certains, des foules agonisantes. L'espace d'un instant, ils se prendraient pour des dieux. Savez-vous que le scénario n'est pas impossible? Que le scénario n'est pas improbable? Peut-être pas si lointain. L'histoire nous a dit combien nous savions être cruels. Un premier espoir, c'est que ceux-là qui s'espèrent et se veulent privilégiés, eh ben, ils ne sont pas des dieux. Même dans leurs rêves les plus abominables, c'est-à-dire les plus ambitieux, ils demeureront marqués par la finitude. Ils se prennent pour des dieux? Ils ne sont qu'épouvantails grotesques, aveuglés par leur propre miroir. Mais, d'un autre côté, la haine de l'humanité se cache aussi derrière une certaine compréhension de l'écologie. Une haine tout aussi déterminée du genre humain. Une mise en accusation permanente. Un refus de vivre tout aussi meurtrier. La même négation des limites, cette fois-ci cachée sous l'intransigeance de la pureté, pas de compromis possible. Une façon de ne voir dans toute activité humaine qu'une intrusion illégitime dans la sphère sacrée et innocente de la nature. Un refus de la complexité, une impatience fondée sur l'urgence biologique, mais à l'exclusion de toute autre considération, et qui n'est en fait que le reflet de l'angoisse, la même qui a poussé le rédacteur biblique à écrire le cycle de Noé. Plutôt que d'incriminer une nature imparfaite, il est plus facile de s'en prendre à l'humain, comme s'il ne faisait pas partie de la dite nature. Comme si les contradictions humaines étaient, disons, exogènes. D'un côté, l'écologie ne cesse de répéter que l'humain appartient au monde naturel, mais de l'autre, elle l'en dissocie pour mieux l'accuser. Qu'une loutre, par exemple, se fasse d'une pierre un marteau et on crie au génie de la nature. Et c'est vrai que c'est magnifique. Mais que l'humain fasse la même chose et on crie au blasphème de l'aise nature. Car, entendons-le bien, rien de ce que fait l'être humain ne relève d'autre chose que de ses capacités naturelles, ses QFD. Alors, ça voudrait dire que la nature humaine, branche de la nature, pourrait bien être mal faite. Et le Dieu biblique, lui, sans vergogne, trouve que le monde qu'il a fait est effectivement raté. Je regrette d'avoir fait le monde. Je me repens, je me retourne, j'abandonne ce projet, un dédit formel. Mais nous, les humains, nous tenons à nos idoles, parce que c'est notre seule façon de caresser notre projet d'immortalité, l'obtenir en flattant nos idoles. Ce qui va faire rupture dans cette inexorable circularité entre refus de n'être que ce que l'on est, mortel, et culpabilité qui s'ensuit, c'est ce petit verset d'une étonnante sobriété. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pas parce qu'il était meilleur que les autres, plus juste ou plus saint ou plus croyant, rien de tout ça. Petit verset, j'allais dire, qui tombe comme des cheveux sur la soupe. Petit verset, coupe-circuit, comme un grain de sable dans l'engrenage infernal entre culpabilité et mortalité. Négligeable. Pinote, cette arche dans le déluge. Tous ceux qui savent la force d'une tempête sourient en pensant qu'une barque surchargée puisse résister à un déluge. Bien sûr que c'est un langage imagé. N'empêche, Noé et son rafiot sont dérisoires face à la volonté de raser la nature entière. Eh bien, le message biblique, c'est que ce dérisoire va être décisif. C'est même à partir de ce dérisoire qu'on va entendre cette promesse « C'est fini, plus jamais de déluge ». C'est fini, dit Dieu, parce que je sais de quoi votre cœur est fait, parce que je sais que vous êtes naturellement des infirmes. Vous cherchez désespérément à sortir de votre condition humaine, jusqu'à monter au ciel, sans même vous rendre compte que c'est suicidaire. Alors, je vous le promets, je vais vous donner assez d'amour pour que vous puissiez accueillir votre finitude comme une grâce et non comme une punition. Eh bien, je le dis, c'est ce petit rien dérisoire qui va ouvrir l'histoire sur un autre ciel, aux couleurs de l'arc-en-ciel, justement, et nous ouvrir à un monde à construire. Entre Bible et âme humaine, entre souffle et humus. Bye bye et bonne fête de fin d'année.
Entre humus et souffle, entre sacralisation de la nature et sa gestion avide, y a-t-il une troisième voie? Le pasteur Didier Fievé nous invite à la réflexion.